regard sur le Moyen-Orient.
L'émission du Synode.
Présentée par Olivier Bonnel de Radio Vatican
et Frédéric Mounier du journal La Croix.
Bonsoir, soyez les bienvenus à Rome dans les studios de Radio Vatican pour notre troisième émission consacrée au Synode pour le Moyen-Orient, émission que j'ai toujours la joie d'animer avec Frédéric Mounier, l'envoyé spécial permanent du journal La Croix ici à Rome.
Bonsoir à tous.
Émission réalisée avec la collaboration de nos amis de l'œuvre d'Orient et je salue aussi au passage les auditeurs de RCF et de Radio Notre-Dame, radio qui nous font la gentillesse de rediffuser nos émissions. Avec nous ce soir, deux invités qui nous viennent de pays qui font souvent la une de l'actualité, de pays très différents. L'Iran d'abord avec Monseigneur Ramzi Garmou, l'évêque des Chaldéens de Téhéran. Bonsoir, Monseigneur.
Bonsoir.
Et le père Rafik Khoury, curé de la paroisse latine de Bir Zeit, près de Ramallah, dans les territoires palestiniens. Bonsoir, père Khoury.
Bonsoir.
Alors, commençons par partir en Iran, si vous le voulez, avec Monseigneur Garmou. Le 8 octobre dernier, il n'y a pas si longtemps, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad envoyait une lettre au pape dans laquelle il précisait que les rapports entre le Saint-Siège et l'Iran étaient une priorité. Qu'en pensez-vous de cette lettre ?
J'avoue, c'est maintenant que j'ai appris le contenu de la lettre. Je suis content que notre président ait dit ça. Et c'est bien de savoir que les relations diplomatiques entre l'Iran et le Saint-Siège ont plus de 50 ans d'âge.
Depuis 1956, exactement.
C'est ça, ouais. Ils ont fêté les 50 années il y a quelques années. Et donc c'est un bon signe que le président Ahmadinejad ait envoyé cette lettre au pape et qu'il a manifesté ses désirs de renforcer ces liens avec le Saint-Siège.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Monseigneur Garmou, combien vous êtes en Iran ? Combien de catholiques en Iran ?
Oui, l'Iran compte environ 75 millions d'habitants. Parmi ces 75 millions, le nombre de chrétiens ne dépasse pas les 100 000.
Et parmi eux ?
Et ces 100 000 sont répartis entre différentes églises. Numériquement, l'église la plus importante, c'est l'église arménienne orthodoxe, appelée aussi grégorienne. Après elle, c'est l'église assyro-chaldéenne, catholique. Nous comptons, nous avons des diocèses chaldéens en Iran, Téhéran et Urmiyeh. Les deux diocèses, le nombre des fidèles ne dépasse pas les 5000. Comme catholique, il y a aussi l'église arménienne catholique et l'église latine avec un petit nombre de fidèles. Comme église aussi orthodoxe, il y a l'église assyrienne de l'Est, appelée autrefois l'église nestorienne. Elle aussi, elle peut avoir quelques 5 à 6 000 fidèles. Et il y a aussi l'église protestante et pentecôtiste, petit nombre.
Alors tout ceci nous fait beaucoup de petites minorités. Vous êtes ici au synode à Rome. La question de la communion est une question qui est posée par Benoît XVI. Vous, par exemple, en Iran, pouvez-vous parler d'une seule voix ?
Ça veut dire, en Iran, c'est vrai, nos églises sont un peu diversifié, mais quand même, il y a aussi des choses qui nous rassemblent. Il y a une certaine communion entre les différentes églises, certaines activités. Par exemple, chaque année, on a une prière pour l'unité, la communion des églises. On a des visites entre les responsables. Ça arrive que dans nos groupes de jeunes, on peut trouver des Arméniens, Assyriens de l'Est. Donc, il y a une certaine communion, mais il faut l'approfondir. Il faut l'approfondir. Ce n'est pas encore au niveau qu'il doit être.
Alors, dans la constitution de la République islamique d'Iran, les chrétiens sont reconnus officiellement comme une minorité religieuse. Vous avez donc la liberté de pratiquer le culte. Qu'en est-il de la liberté de conscience ? Comment les chrétiens sont acceptés au sein de la société iranienne, Monseigneur Garmou ?
D'abord, les chrétiens en Iran sont des citoyens iraniens. Et comme chrétiens, nous sommes en Iran bien avant l'islam. Vous savez, nous, on considère que le christianisme est entré dans nos pays avec Saint Thomas l'apôtre, qui est passé par la Mésopotamie, l'Irak actuel, la Perse, l'Iran actuel, et il a continué son chemin vers l'Inde, où il a été martyrisé selon la tradition. Donc, on est dans ce pays depuis l'aube du christianisme. On a eu des temps de gloire. Notre église, c'était la première église qui a annoncé l'évangile jusqu'en Chine, en Inde, en Vietnam, dans les premiers siècles. Elle a eu une expansion missionnaire extraordinaire. Aussi, c'est une église de martyrs. Et le petit nombre de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, on est le fruit de cette grande église de l'Orient qui a donné beaucoup de martyrs et aussi elle a eu cette expansion missionnaire. Donc, comme vous l'avez dit, selon la Constitution, on est une minorité religieuse reconnue. Nos églises sont ouvertes pour les célébrations liturgiques, pour les cultes, pour l'enseignement, les différentes activités pastorales. On n'a pas le droit disons, d'évangéliser d'une manière directe.
Les conversions sont interdites.
Les conversions sont interdites. Mais à mon avis, pour les églises comme les nôtres, où on est un petit nombre avec des lois un peu strictes, l'évangélisation aussi passe par le témoignage de la vie quotidienne. Vous savez, nous, on est tout le temps en contact avec les musulmans, à l'école, au travail, quartier, autobus. Donc, dans des pays comme chez nous, je pense, il faut insister beaucoup sur ce témoignage de la vie, et ce dialogue de la vie, qui peut être un moyen pour annoncer Jésus-Christ.
Alors, Mgr Garmou, il faut rappeler que vous n'êtes pas, votre pays n'est pas de culture arabe, vous êtes de culture persane. Est-ce qu'au sein de ce synode, qui regroupe en grande partie des personnes qui viennent du monde arabe, vous ne vous sentez pas un peu étranger, Mgr Garmou ?
J'avoue, on est un peu marginalisé.
Oui. Vous voyez,
Il y a l'Iran dans ce synode qui n'est pas de culture arabe, et aussi la Turquie. Les deux pays. Et on voit la discussion, les interventions tournent autour des pays arabes, notamment la Terre Sainte, l'Irak avec l'occupation américaine ou le Liban. On accepte ça avec beaucoup d'humilité.
Mais vous avez quand même votre mot à dire. Et qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vos chrétiens iraniens veulent dire lors de ce synode ?
Justement, moi, j'ai fait mon intervention là cet après-midi. J'ai souligné deux points dans mon intervention. D'abord, il faut mettre face au confessionnalisme et à un attachement exagéré à l'ethnie. Et ça, c'est un grave problème qu'on a dans les pays du Moyen-Orient.
Y compris chez vous.
Oui, aussi. Je parle de chez moi. L'un des problèmes qui empêche la communion, qui empêche les témoignages, c'est que l'Église elle est construite sur l'ethnie ou la nation. Et elle ne dépasse pas ses limites. Et ça, ce n'est pas l'Église telle qu'elle est définie par l'Évangile ou par l'enseignement de l'Église. Quand on revient à la Pentecôte, les frontières sont tombées.
L'universalité.
Et le deuxième point que j'ai souligné, nos pays sont les berceaux de la vie monastique et contemplative. C'est de nos pays que cette forme de vie chrétienne, contemplation et monastique, sont passées à l'Occident. Où on les trouve encore en Occident, grâce à Dieu. Mais dans nos pays d'Orient, malheureusement, on ne trouve pas de monastère contemplatif. Oriental. Il faut faire quelque chose pour que cette forme de vie prenne de nouveaux racines et se développe, parce qu'une église qui n'est pas soutenue vraiment par une prière fervente, elle restera stérile. Et c'est grave, ça.
Alors, Mgr Garmou, on a connu aujourd'hui la lettre pastorale du pape pour son nouveau dicastère, pour la nouvelle évangélisation avec Mgr Rino Fisichella. Il s'agit donc de lutter contre la sécularisation de nos vieilles sociétés européennes. Votre président, le président Ahmadinejad, dans sa lettre, proposait au pape une sainte alliance contre la laïcité. Est-ce que vous verriez d'un bon œil une sorte d'alliance entre des musulmans et des catholiques contre la laïcité, contre la sécularisation ?
Vous savez, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot laïcité, vous voyez, laïcité. Et c'est vrai, dans nos pays d'Orient, laïcité veut dire anti-religion, entre-religieux. Donc c'est un peu négatif. Mais maintenant, on parle de la laïcité positive. Ça veut dire qu'il respecte aussi les valeurs religieuses, les valeurs spirituelles. Et je pense qu'il faut partir dans ce sens. Séparer la religion de la politique, mais tout en favorisant une vie morale selon les valeurs de l'Évangile qui permet une collaboration entre les deux religions. Puisque dans l'islam, vous savez, encore, il y a des valeurs importantes qui existent, qui peut-être en Occident, on les a perdues. La place de la famille, par exemple, la prière, tout ça. À mon avis, il faut clarifier le sens de la laïcité pour ensuite faire une bonne alliance. Il faut poser des bases solides.
Et Mgr Garmou, séparer la religion de la politique, comment peut-on faire en Iran, le pays de la révolution islamique ?
Ça, c'est le problème. C'est ça le problème.
Et justement, quelle réponse pouvez-vous apporter ?
À mon avis, il faut souligner les conséquences d'une telle politique qu'on les trouve et conscientiser les gens. Et alors, tout en sachant, il y a un courant aussi dans l'islam, un courant important qui va dans ce sens de cette séparation.
Le soufisme, en l'occurrence.
Le soufisme ou des intellectuels musulmans, ou même des religieux musulmans qui pensent que c'est le temps de séparer les deux.
Mais justement, en Iran, est-ce qu'il y a des intellectuels qui ont une envergure suffisante justement pour porter ces courants-là aujourd'hui ?
Ça commence. Il faut du temps et de la patience.
Est-ce que dans votre situation, Mgr Garmou, vous voyez éclore des vocations ?
Ça, c'est pour nous, pour l'Église.
Dans votre Église. Dans vos Églises.
Pour répondre à votre question, il y a exactement le 20 août, on a eu une ordination dans mon diocèse.
C'était la première depuis ?
Depuis 5 ans.
Depuis 5 ans.
Et pour nous, c'est une grande grâce. Depuis 5 ans, un jeune donc iranien de mon diocèse, il a passé 6 ans ici à
Rome.
Ici à Rome, à Urbaniana. Et le 20 août, il a été ordonné prêtre par le patriarche qui est venu à Téhéran pour ça. Et on a aussi actuellement une jeune iranienne qui est entrée dans la congrégation des sœurs chaldéennes en Irak. Elle a déjà fait ses premiers vœux et elle prépare pour les vœux perpétuels. Et on a certains jeunes mariés. Vous savez, chez nous, on peut ordonner des hommes mariés. Le droit canon le permet. Qui font partie d'un groupe de formation qui pensent avoir la vocation de prêtre marié.
Alors, Mgr Garmou, en janvier 2009, vous étiez venu à Rome rencontrer le pape lors de votre visite ad limina. Et dans l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, vous aviez expliqué que le défi actuel de l'Église catholique en Iran, c'était d'aider les fidèles à passer d'une foi sociologique à une expérience personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les chrétiens ont peur de témoigner, justement, de leur foi ?
Ce n'est pas tellement ça. Malheureusement, beaucoup de nos chrétiens sont chrétiens parce qu'ils naissent dans une famille chrétienne. Ils n'ont pas reçu une formation profonde. Donc, il n'y a pas eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. D'où, maintenant, pour nous, la formation chrétienne est une priorité, surtout de la jeunesse, pour qu'ils séparent entre leur appartenance ethnique et leur appartenance à l'Église chrétienne. Aujourd'hui, dans la mentalité de la majorité, des Assyro-Chaldéens et des Arméniens, on est chrétien parce qu'on est arménien. On est chrétien parce qu'on est Assyro-Chaldéen. Ça paralyse.
C'est la famille d'abord.
C'est la famille, c'est la langue, c'est la culture. C'est ce que je disais maintenant, cet attachement exagéré à l'ethnie, à la langue, aux habitudes de l'ethnie, qui fait qu'on n'a pas eu cette expérience vitale pour chaque chrétien.
Très bien, alors il est temps de faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Retour sur le plateau de Regards sur le Moyen-Orient, l'émission du Synode. Notre deuxième invité, donc après avoir entendu Monseigneur Garmou de Téhéran, notre deuxième invité, le Père Rafik Khoury. Vous êtes curé de la paroisse de Bir Zeit dans les territoires palestiniens. Père Khoury, on parle quotidiennement de ce conflit israélo-palestinien. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de vos paroissiens ?
C'est-à-dire, mes paroissiens, quand il y a eu le début du processus de paix, il y avait, ce processus de paix a suscité une très grande espérance. Dans les années 90, à partir de 1993. Mais aujourd'hui, il y a une très grande déception. Sinon, un certain désespoir même. Parce qu'il voit qu'après 17 ans de pourparlers, des négociations exténuantes, le résultat est très minime, très réduit.
Alors on sait que la question des colonisations est essentielle. Autour de vous, Père Khoury, est-ce que vous voyez les colonisations juives se poursuivre ?
Bien sûr, vous savez, tous les villages palestiniens pratiquement sont entourés des colonies. Je vous donne le cas de mon propre village. Je suis d'un petit village à côté de Ramallah. Il y a les quatre points du village, il y a des colonies. Et par conséquent, ça étouffe les villages et le village ne peut plus s'agrandir. Et petit à petit, le village s'étouffe.
Physiquement, vos paroissiens peuvent-ils quitter leur village pour aller prier à Jérusalem, pour aller se faire soigner, pour aller...
Vous savez, pour un Palestinien des territoires palestiniens, il est interdit, Jérusalem est une ville interdite pour lui. Moi-même, qui suis prêtre, je ne peux pas entrer à Jérusalem en toute liberté. On m'a donné un passeport du Vatican pour pouvoir entrer à Jérusalem parce que mon travail demande que j'aille à Jérusalem. Mais il n'y a pas de visa aussi. Ce qui fait que quand je me présente au checkpoint, au barrage de l'armée, bah, il voit un passeport du Vatican, il me laisse passer. Mais quelquefois, il y a un soldat qui feuillette. Il dit, mais il n'y a pas de visa. Tu ne peux pas entrer. Alors,
et pour venir ici à Rome, Père Houri, vous avez fait comment?
Eh bien, je suis venu ici par Amman. Allé par Amman parce qu'on n'a pas le droit de voyager par Tel Aviv, sauf quand on a une permission, et cette permission n'est pas donnée facilement.
Alors justement, dans ce contexte, comment le synode, est-ce qu'il a un écho, ce synode, auprès des chrétiens palestiniens?
C'est-à-dire, ils savent qu'il y a un synode. Moi-même, j'en ai parlé dans ma paroisse pour justement informer mes paroissiens et réveiller cette conscience synodale. Mais je dois dire que le synode n'a pas été assez bien préparé dans nos diocèses.
Trop peu de temps pour le préparer?
C'est-à-dire, peut-être le temps était bref. Mais je crois qu'on aurait pu, pendant les six mois qui ont précédé le synode, on aurait pu et dû faire quelque chose pour la préparation du synode. J'espère que nous allons, après le synode, nous allons travailler plus pour l'après-synode qu'avant.
Alors, en préparant cette émission, vous nous disiez que au sein des musulmans qui vous entourent, il y avait ce sentiment de plus en plus important et de plus en plus fort de protéger la communauté chrétienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Je n'aime pas le mot protéger. Parce que, vous savez, nous sommes des citoyens. Musulmans et chrétiens, nous sommes des citoyens palestiniens. On n'a pas besoin d'être protégés par ceci ou par cela. Nous sommes tous des citoyens. Mais je dois dire qu'il y a une conscience toujours plus grande parmi les musulmans pour dire que la présence des chrétiens parmi nous est fondamentale et par conséquent, nous devons faire tout pour conserver la communauté chrétienne. Tout le monde ne dit pas ça, mais il y a une conscience qui se développe dans ce sens-là.
Alors, pour quelles raisons disent-ils cela?
Point de vue culturel. Mm-hmm. Ils disent que vous êtes un pont entre nous et l'Occident. Et vous avez des valeurs qui sont importantes pour notre milieu musulman, pour l'environnement musulman. Et par conséquent, nous tenons que vous restiez là.
Alors, c'est les jeunes chez vous, Père Houri, dans votre paroisse. Ils restent, ils fuient le village. Quelle est leur espérance aujourd'hui?
C'est-à-dire, les grands problèmes. Vous savez, les jeunes palestiniens aiment leur pays d'une manière folle. Mais seulement, il n'y a pas de travail. C'est que, vous savez, mon village, Birzeit, il y a l'université de Birzeit, à côté de mon village. Et quand ils finissent les études, il n'y a pas de travail. Et par conséquent, ils sont déchirés entre leur amour de la Terre Sainte, de la Palestine. Par ailleurs, cette Palestine ne leur donne pas l'occasion de vivre. Et par conséquent, ils regardent vers l'extérieur.
Vous pensez que d'ici 10 ans, votre village comptera combien de paroissiens, par exemple?
Vous savez, je ne suis pas si pessimiste que ça. C'est vrai qu'il y a des départs, mais ouais, je voudrais vous dire en bref. En Palestine, nous avons toujours été là, nous sommes toujours là et nous serons toujours là jusqu'à la résurrection des morts. Nous perdrons quelques plumes. Mais je crois que nous, même je ne dis pas ça seulement pour la Palestine, mais au Moyen-Orient, il y aura toujours des chrétiens. Mais tout dépend de la paix. Si jamais il y a une vraie paix qui s'en sort en Terre Sainte, non seulement le nombre de chrétiens va se stabiliser, mais il y aura des chrétiens qui retourneront en Palestine.
Et vos paroissiens et même les Palestiniens que vous fréquentez parlent encore de cette paix? On y croit à cette paix?
Pas beaucoup, franchement. Après 17 ans de déception, ils n'y croient plus. Vous savez que dernièrement, il y a eu des pourparlers entre Netanyahou et Abbas, mais personne n'y croit. Parce que comment faire la paix alors que la construction des colonies continue? Et les gens n'y croient pas. Quand ils voient cette contradiction entre les processus de paix et les colonies, ils disent donc, ils font des négociations pour les négociations, pour gérer un conflit et non pas pour résoudre un conflit.
Le pape est venu chez vous en 2009. Quel est l'écho de ce voyage aujourd'hui?
Eh bien, je dois vous dire, il a eu un écho très positif. Je voudrais vous dire plus. Au début de son voyage, les gens avaient peur de ce voyage. Il se disait, ce n'est pas le moment opportun pour ce voyage. On ne sait pas comment va se passer ce voyage. Il y avait donc, les gens étaient sceptiques, il y avait du doute. Mais quand ils ont vu le pape sur le terrain, En 3 jours, l'opinion publique a changé et ils ont accueilli ce pape avec beaucoup de joie. Alors, parce qu'il a su donner la parole juste à chacun en Terre Sainte.
Alors, vous êtes venu à Rome avec dans vos valises un document qui s'appelle Kairos Palestine. Oui, oui. Qu'est-ce que ce document ?
Ce document, c'est que dans cette situation de déception et désespoir, un certain nombre de chrétiens se sont dit « Nous ne pouvons pas rester, nous résigner au désespoir. Il faut donner une parole d'espérance, non seulement aux chrétiens, mais à tous les Palestiniens. » C'est ainsi qu'est né ce document-là. Ce groupe de Palestiniens chrétiens se présente comme Palestiniens et comme chrétiens. Ils ont travaillé de toutes les églises. Ils ont travaillé pendant plus d'un an sur ce document-là pour dire un mot, une parole de foi, d'espérance et d'amour. Venant du cœur de la souffrance palestinienne. C'est un mot, c'est un cri. Et un cri, je crois qu'il faut savoir écouter.
Alors, chez ceux d'en face, dans l'État d'Israël, vous avez des gens qui peuvent entendre ce cri? Vous avez des gens avec qui parler, des interlocuteurs?
Une petite minorité, il faut le dire. Il est certain que le camp de la paix est beaucoup revenu en arrière en Israël. Mais il y a certaines personnes qui sont ouvertes à la paix, avec qui nous pouvons parler et qui nous comprennent et que nous, nous les comprenons. Mais ça représente malheureusement une petite minorité, et pas seulement une petite minorité, mais une minorité marginalisée dans la société palestinienne, dans la société israélienne, qui vire de plus en plus vers la droite.
Est-ce que en Occident, on est parfois un peu fatigué de parler du processus de paix et de l'échec des négociations? Comment on fait quand on est chrétien palestinien aujourd'hui pour garder cette espérance et cette foi dans la paix et dans l'avenir?
Vous savez, nous sommes en Terre Sainte. Quand même, j'ai vécu pendant 35 ans à 500 mètres de l'église de la Résurrection. À Jérusalem, il y a un tombeau vide. Et par conséquent, c'est notre foi qui nous donne une très grande espérance, malgré toutes les difficultés que nous vivons. Et nous comptons aussi sur l'Occident, qui a une responsabilité immense pour vraiment pousser le processus de la paix pour qu'il aille de l'avant.
Alors précisément, vous évoquez l'Occident, il y a beaucoup de pèlerins qui viennent chez vous, des pèlerins occidentaux, latins, romains. Ils n'ont pas toujours conscience du caractère complexe et difficile de la situation que vous vivez, ni non plus de la diversité des églises catholiques. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir?
Vous savez, il y a une grande surprise pour les pèlerins qui viennent de l'extérieur. Tout d'abord, ils sont surpris par la diversité des chrétiens. Ils sont habitués au christianisme occidental. Ils viennent à Jérusalem, ils découvrent qu'il y a beaucoup, plusieurs manières d'être chrétien. C'est une occasion pour eux de découvrir que quand même l'Église est une, mais qu'il y a plusieurs traditions, il y a une diversité. Donc, il s'agit de sauver l'unité de cette Église, mais une unité dans la diversité. Aussi, ils découvrent la réalité du problème palestinien, c'est qu'ils n'ont pas l'occasion dans leur pays de connaître le problème palestinien, mais avec le contact direct avec les Palestiniens, ils comprennent un peu plus de quoi il s'agit.
Très bien, merci beaucoup Père Khoury. Je remercie aussi Mgr Ramzi Garmou, évêque chaldéen de Téhéran. C'est la fin de cette émission. Demain, nous vous emmènerons en Turquie. Merci à tous. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.org et sur le site internet du quotidien La Croix, la-croix.com. À bientôt.